Philippe Roizet. Il y aura 3 communications cet après-midi. Donc Philippe, qui est là depuis longtemps, en fait, dans notre projet, et qui nous a proposé un sujet qui s'adaptait très très bien à la thématique de notre colloque exceptionnel, là, qui est donc sur punk et normes, punk et loi. Donc merci beaucoup d'avoir accepté de venir sur un sujet passionnant.
Je vais vous parler en fait des phénomènes autonormatifs dans le punk et dans ses satellites musicaux. On va commencer par un grand paradoxe, c'est que le punk est censé être un élan de liberté, mais il est contrarié par une sorte de petite police interne qui a plein de formes différentes. Alors j'ai fait 1, 2, 3, 4 parties, mais c'est la première qui va occuper le plus de temps. C'est les jugements. Donc le punk constitue en partie une rupture avec la manière précédente de faire du rock'n'roll, une espèce d'espace de liberté dans lequel l'esprit devrait être toujours plus important que la forme. Au départ, il y a une grande variété de groupes, de sons, de manières de chanter, de styles de texte, d'esthétique de pochette. Quand on prend les premiers disques qui sont sortis, il n'y en a aucun qui se ressemble. Bon, il y a des points communs, mais il y a vraiment aucun qui se ressemble tout à fait. Chaque groupe a sa propre personnalité. Et je parle aussi de la France. Quand on prend les premiers groupes punk français, Angel Face est très stoogien, Asphalt Jungle et Stinky Toys vont être plus dans un rock'n'roll finalement assez classique avec le recul. Les Olivenstein vont avoir beaucoup d'influence années 60 dans le son, et Metal Urbain va être un peu plus expérimental. Et en fait, cette variété de styles, elle va continuer totalement avec la deuxième génération. Je vais citer Ozweiss, qui avait une forte influence de Killing Joke, donc une approche plus froide. Béret Noir, qui est vraiment une formule originale en soi, duo, boîte à rythme. Guernica, qu'on pourrait presque qualifier de post-punk, un côté plus froid et percussif. Oberkampf, qui a commencé comme du punk rock classique, mais qui ensuite a intégré beaucoup d'influences de Bauhaus, donc encore une fois une approche un peu plus froide. Et OTH, auquel on prêtait par exemple à leur tout début des influences de hard rock et qui est plus rock'n'roll également. Donc on voit que vraiment il y a un point commun entre toutes les formations qui est un certain état d'esprit, vouloir faire du rock rentre dedans, différentes choses comme ça, mais que quand même chacun a sa propre personnalité. Et très très vite, dès le début d'ailleurs, il va venir en fait des restrictions, des définitions, des règles. Souvent, elles ont été éditées au départ, elles ont été écrites dans des articles par les journalistes, mais finalement, elles ont laissé des traces indélébiles parce que beaucoup de gens dans le milieu punk vont les reprendre à leur compte. Le punk, c'est ça, c'est pas ça, ça se fait comme ça, non, ça se fait pas. Par exemple, dès 1977, il y a des groupes qui disent d'autres groupes qui sont pas authentiques. Il y a eu une rivalité extrêmement forte et je crois qu'elle continue encore. C'est-à-dire que si on rencontre les anciens membres de ces deux vieux groupes de pachyderme, ils peuvent encore parler de leur rivalité. Et par exemple, Metal Urbain à Swan Jungle, il y a une vraie rivalité entre la manière de faire de la musique, l'authenticité des gens qui étaient dedans, même si d'ailleurs il y a eu un membre commun aux deux, enfin qui est passé de l'un à l'autre avant de disparaître totalement. Voilà. Mais en tout cas, c'est vraiment dès le début qu'on va commencer à dire « Non, nous, ce qu'on fait, c'est punk, mais toi, ce que tu fais, c'est pas punk. » Ou « Nous, ce qu'on fait, c'est punk, lui, ce qu'il fait, c'est pas punk. » Parce que c'est pas toujours dit en face. Donc, en tout cas, c'est vraiment pour souligner que cette forme de jugement, elle arrive quasiment dès le début. Ensuite, dans ce que j'appelle les satellites du punk, c'est-à-dire des influences différentes, des styles différents, mais qui restent de la même famille, ça va continuer ce genre de choses. Par exemple, La Hoy, qui est un style, on va dire, qui... Bon, au départ, c'est pareil, les groupes ne se ressemblent pas, mais on va arriver de manière inévitable à une espèce de style un peu plus, comment dire, mid-tempo, un peu plus lent, des gros chœurs, des choses comme ça. Et il y a plein de gens qui vont dire « Ah non, mais ça, c'est trop simple ». Donc, c'est assez drôle, parce que le punk, au départ, s'inscrivait comme un truc rentre-dedans, 3 accords, qui étaient en rupture avec le rock progressif ou le rock psychédélique. Et là, on va dire « Ah non, mais ça, non, c'est trop simple ». Alors, par exemple, pour le hardcore, c'est encore pire, puisque quand le hardcore a émergé en France à partir de fin 83, on pouvait entendre des punks dire « Ah ben non, ça, c'est du bruit ». Donc ça, c'est quand même très drôle aussi, parce que s'entendre dire de la part de punks que cette musique qui va plus loin qu'eux, non, ça va pas, c'est du bruit, c'est quand même cocasse. Le stage diving aussi, qui était la pratique de monter sur scène et de plonger dans le public, qui était au départ vu comme une pratique extrêmement violente, qui ne se faisait pas. Et moi, je me souviens de gens, les premiers Français qui se lamaient, qui montaient sur scène, qui se jetaient dans le public, se faire tabasser par des punks. Donc là aussi, ça, le pogo, oui, le stage diving, non. Il va y avoir aussi les premières réactions à la déferlante du rap. Alors, la deuxième vague du rap américain qui a commencé à la fin des années 80, et puis la première vague de rap français au début des années 90. Et là, énormément de punks disaient « c'est pas de la musique ». Donc, encore quelque chose qui est très cocasse de la part de gens dont eux-mêmes, des gens plus âgés, ont dit « ce que vous faites, c'est pas de la musique ». Ou « c'est de la disco », ou « ils chantent pas », comme si une forme musicale, il fallait absolument qu'elle soit normée et qu'il fallait, ah ben non, le chant, ça doit être comme ça. Ou, alors ça c'était encore plus drôle, le sample, l'échantillonnage, c'est pas de la musique, il vole. Donc le punk qui lui, en philosophie, s'est construit aussi sur le vol. Je rappelle que les Sex Pistols, un des membres du groupe a piqué du matériel backstage à un gros concert de David Bowie parce qu'il n'y avait pas la moyen de s'acheter une guitare à l'époque. Et là, des punks vont aller dire à une nouvelle forme émergente d'un autre style offensif de musique, non, vous, c'est pas de la musique, c'est du vol. Un autre genre qui a suscité énormément de débats, c'est l'anarcho-punk. Donc l'anarcho-punk en France... Il émerge un peu tardivement, mais il y a des influences. Il y a des groupes qui vont avoir des influences assez tôt. Donc en Angleterre, vraiment les deux groupes les plus importants, ça a été Crass et Conflict. Alors c'est un son un peu différent, particulièrement pour Crass. Et puis c'est réfléchir à une éthique, pas uniquement le do it yourself, le fais-le toi-même, mais pousser des raisonnements et des réflexions sociales ou politiques plus loin que le punk qui se voulait être une réaction. Et là, ça suscitait énormément de débats aussi, ou ça continue d'en susciter, donc une réflexion sur une éthique aussi, qui vient du punk, qui a comme point de départ une réflexion, et une affaire de contexte aussi, c'est-à-dire qu'il faut comprendre que le contexte est toujours très important, c'est-à-dire que le punk émerge en opposition à des formes de rock devenues consensuelles ou plus savantes. Et là, l'anarcho-punk qui va arriver en Angleterre au tout début des années 80, donc finalement 4 ans après, va lui être dans un autre contexte et va considérer que ce que faisait le punk en 76 était très bien, mais que c'est déjà daté et qu'on pourrait peut-être en sortir et imaginer d'autres formes. Donc une évolution. Et il va y avoir des débats comme ça incessants. Alors, dans l'anarcho-punk, le végétarisme va être quelque chose d'assez important, le refus de l'exploitation animale. Et du coup, le cuir clouté qui traduisait une espèce de continuité authentique du rock'n'roll chez les punks va être considéré comme finalement quelque chose de pas très bien dans l'anarcho-punk puisqu'il est fait à base d'un animal tué. Dans l'anarcho-punk, il va y avoir énormément de réflexions autour d'un féminisme radical ou des questions de genre. Et l'hypersexualisation qu'on pouvait avoir au début du punk, là, dans l'anarcho-punk, il va être vu comme au contraire, on va y opposer le refus de comportements sexistes où on va voir l'hypersexualisation ou l'image hypersexualisée de la femme comme une continuité de l'image stéréotypée de la femme. Et donc, il va y avoir un refus de ça. On l'avait évoqué, enfin, dans le film de Voto, c'est un peu évoqué. Le pogo, qui peut être vu comme une danse violente ou masculiniste, pour le punk initial, il est un défoulement, un exutoire, et quelque chose que l'adulte ou les parents ne peuvent pas comprendre. Et dans l'anarcho-punk, il va y avoir une réflexion surtout sur un fonctionnement qui est répété à l'infini pendant des années, et qui du coup devient une pièce de musée un peu hors contexte. Un autre courant qui a été très minoritaire en France, mais qui a posé également ce genre de problèmes et de jugements, c'est le straight edge. Donc le straight edge qui, au départ, a une éthique qui prend le contre-pied d'un anticonformisme qui est devenu conformiste, c'est-à-dire le destroy poussé au pied de la lettre, l'obsession de l'alcool et des drogues. Là, il rompt avec tout ça. Et du coup, c'est une pensée qui dit « Ouais, mais du coup, l'alcool va provoquer des bastons, les bastons vont faire que, par exemple, des gens, un nouveau lieu va ouvrir pour faire des concerts, et puis les gens sur le trottoir, il va y avoir des bastons où ils vont casser leur bouteille de bière, et forcément, ce lieu, à la suite de plaintes, va fermer. » Donc ça faisait partie aussi du processus de réflexion du straight edge. Mais en même temps, le straight edge, dans un deuxième temps, surtout aux États-Unis, il est vrai, est devenu quelque chose d'extrêmement moralisateur. C'est-à-dire qu'au départ, c'est juste « nous, on va faire différemment », et dans un deuxième temps, ça va être « vous, vous faites mal ». Ça, c'était pour les jugements. Maintenant, je vais passer au contrôle. Alors le contrôle, il vient plutôt des milieux les plus politisés, milieu autonome en règle générale, où c'est différents avatars qui aimeraient voir émerger dans le punk ou qui ont vu dans le punk quelque chose de politique, qui l'ont pas vu forcément pour ce qu'il était au départ, moi je pense plutôt une espèce de rébellion existentielle adolescente, et qui aimeraient que les punks qui jouent dans les squats qu'ils ont ouverts, par exemple, s'investissent plus dans le champ social, dans le champ politique, et qui ont une manière de concevoir le punk qui fait que ce qui n'en fait pas partie ou ce qui ne soutient pas cette manière plus politique de la concevoir ne doit pas en faire partie. Il y a eu des discussions incessantes aussi sur « oui mais tel groupe, il fait pas ça, il vient jamais, on le voit pas aux manifs, il s'en fout », voilà ce genre de choses. Sans aucun jugement de valeur, le service d'ordre de Berruyer Noir a été une forme de contrôle. François a déjà expliqué ici que ça se posait comme une nécessité pour la sécurité même du public à une époque où la mouvance skinhead était traversée par le nationalisme ou par les choses d'extrême droite ou même fascistes ou néo-nazis, encore pire. Et du coup, il y avait... Alors, le premier service d'ordre des Berruyers Noirs, c'était surtout des gens venus justement du champ de l'autonomie. Et puis après, il y a eu un mélange avec ce qu'on a appelé une bande qui s'appelait les Red Warriors, chasseurs de skin. Et du coup, là, il y a une continuité, un fil historique quasiment qu'on peut dérouler de la bande des Red Warriors au milieu, fin des années 80... beaucoup plus tard, dans les années 90-2000, le RASH, qui est le Red and Anarchist Skinheads, donc qui se pose comme quelque chose d'opposé aux skinheads nationalistes ou fascistes ou nazis. Il y a eu un groupe plus jeune qui s'appelait la Jeune Garde, et jusqu'à récemment, la FA Paris Banlieue. Et c'est des gens qui vont en général avoir un rapport à la culture skinhead, mais un peu fantasmé. D'abord, des comportements « entre guillemets » de milice urbaine, c'est-à-dire « je te contrôle », qui tu es, tu portes quoi comme t-shirt, tu as quoi comme badge, des vérifications que la personne qui vient au concert, ou même parfois dans la rue, hein, est conforme à un certain état d'esprit. Et puis, alors avec certaines dérives, hein, y a des gamins de 13 ans, parce qu'ils n'avaient pas un badge un peu connoté, qui se sont retrouvés en sang et qui se sont fait piquer tout leur, on va dire, accessoire punk ou skin. Il y a eu une autre forme de dérive qui a été souvent aussi d'attaquer des gens finalement politiquement assez proches de soi. C'est-à-dire que dans les années 90, par exemple, ou 2000, il y a eu toute une vague parisienne, par exemple, de skinheads plutôt de gauche, mais qui n'avaient pas envie de le dire dans leur texte. C'est-à-dire, eux, ils prenaient ça comme un mode culturel, des références musicales, des références esthétiques, mais ils n'avaient pas envie de mêler ça à la politique. Et ce fil historique que j'ai déroulé, qu'on dit red skin, mais qui a finalement assez peu à voir avec la culture skinhead, a pu tabasser des gens comme ça, qui, en fait, n'avaient pas des idées aussi si éloignées que ça d'eux. Ça a eu aussi une forme de contrôle. Et puis, il y a la réappropriation de cette culture skinhead, mais souvent sans en connaître véritablement les codes, et une relecture politique fausse. C'est-à-dire qu'en gros, la mouvement skinhead en Grande-Bretagne, elle émerge au milieu, fin des années 60, avec venant d'un milieu enfant d'ouvrier et avec des références culturelles à la musique jamaïcaine très très fortes. Et du coup, là, on va dire, la mouvance Redskins avec mille guillemets va parfois avoir une espèce de relecture fausse en disant « Ah ben forcément, ils étaient prolétariens, marxistes, antifascistes ». Non, c'est beaucoup plus complexe que ça, surtout pour une époque où les skinheads avaient parfois 13 ou 14 ans, donc n'avaient pas une conscience politique très, très aiguisée, pour le moins. Il y a une nouvelle phase dans ce même fil que je déroule, que j'appellerais le cybercontrôle. Par exemple, il y a un mouvement dans plusieurs pays qui s'appelle l'AIM, donc Alternative International Movement. Donc il y a un AIM Panam pour Paris, et qui lui va avoir des modes de communication modernes, et va être énormément sur les réseaux sociaux ou sur Internet, et qui là, c'est ce que j'appelle donc la phase de cybercontrôle, et qui va par exemple faire des posts sur tel groupe qui aurait connu telle personne, ou qui aurait joué avec tel autre groupe, ou organisé un concert par la sœur d'un tel, et du coup, méfiez-vous. Parce que finalement, c'est peut-être pas aussi clair que ça politiquement. Des appels à boycott de tel groupe, de tel disque, de tel concert. L'interdiction même, quand certaines personnes viennent à des concerts, qu'ils puissent rentrer. Voilà, ça c'était le contrôle. La censure, alors, je cite un exemple, je pense que les intéressés ne me diraient pas que je me trompe. Je crois que Marsu, à une époque, le manager de Berruyer Noir, avait été qualifié un peu de commissaire politique, même en interne, parce qu'il relisait les textes que le groupe écrivait, et parfois voulait y mettre son grain de sel, en disant « bon non, ça serait mieux comme ci, ça serait mieux comme ça, j'enlève ça, ça serait mieux de mettre ça ». Et les deux membres, on va dire, créateurs du groupe, le prenaient pas très bien, parce qu'ils voyaient ça un peu comme une forme de censure. Et en même temps, on peut comprendre que quelqu'un qui, Marsu avait en gros le rôle de manager, même si c'est, le terme est assez pompeux, quelqu'un qui a donné énormément de temps et d'énergie à faire émerger un groupe pendant des années et des années, on peut comprendre qu'il ait envie de s'impliquer dans des choses autres que les choses extrêmement rébarbatives qui sont de passer des coups de fil pour trouver des concerts. Il y a aussi, et là non plus je m'interdis en tout cas dans cette communication, en dehors, j'ai mon avis personnel, mais là je m'interdis de tout commentaire. Il y a eu un fameux concert de La Souris Déglinguée à Fréjus en 2015. Il se trouve que c'était organisé par la mairie frontiste, Front National, et la patrouille de l'événement, qui est une société qui est dirigée par un militant d'extrême droite, avec en première partie un groupe identitaire qui s'appelle In Memoriam, et dont la première partie était secrète. C'est-à-dire qu'en gros, sur les réseaux sociaux, dans les réseaux d'extrême droite, il était bien marqué que c'était In Memoriam en première partie, mais on va dire que dans les réseaux rock, c'était marqué plus première partie. Donc c'était un peu savamment maintenu secret pour qui ne devait pas savoir. Il y a eu une énorme levée de bouclier à la suite de concerts, comme quoi le groupe s'était totalement fourvoyé, et depuis, si tant est que le groupe d'ailleurs existe encore, La Souris Déglinguée a eu énormément de difficultés après ça à trouver des concerts depuis. Je ne me prononce pas ici si c'est bien, si c'est pas bien. Je dis juste que, puisque je fais quelque chose sur les jugements, le contrôle, la censure et l'autocensure, que c'est une forme de censure. Et je finirai par l'autocensure. Alors l'autocensure, c'est quand des punks eux-mêmes disent « Ah ben non, ça se fait pas dans le punk ». Et c'est donc une autre forme de restriction, mais qui là est envers soi-même, finalement. C'est pas « toi, tu fais mal », c'est « nous, on va pas faire ça parce que c'est pas punk ». Alors, ça veut dire que des gens peuvent avoir envie peut-être de faire des choses en matière de musique, en matière de texte, en matière de pochette, manière de faire, mais vont se l'interdire, parce qu'il y aurait un dogme. Et le dogme, dogme et punk, on comprend bien que ça ne marche pas tellement ensemble. J'ai deux lignes. Le punk, il a justement inventé des nouvelles manières de faire en dynamitant ce que j'appelle le rock à papa, et forcément l'objet de musée qui reste tel quel, ça n'a pas grand intérêt. L'intérêt, c'est justement si ça évolue, et il y a des choses qui ont été faites en 77 par des groupes, c'est mouvant, que dès 80 on ne faisait plus, et de la même manière il y a des choses que les groupes faisaient en 80 et qu'aujourd'hui plus personne ne fait, mais par contre il y a eu des nouvelles choses qui ont été créées depuis. Et je finirai juste par une anecdote. J'avais interviewé un jour Mirouès, ancien de Taxi Girl. Et donc, Mirouès, il se trouve qu'il a produit un, deux ou trois albums de Madonna dans les années 2000. Et il disait, en fait, parfois, je propose des choses à Madonna en studio, et puis je dis, ouais, mais comment va le voir ton public? Et elle disait, je m'en contrefous. C'est bien, je le fais. Et lui, il en était arrivé à cette réflexion, il disait, en fait, j'ai navigué dans le punk, j'ai navigué dans le post-punk, dans la new wave, dans les milieux indépendants. Et là, je n'ai croisé beaucoup plus de gens qui se posaient perpétuellement la question « Comment est-ce que mon public va recevoir ça si je le fais ?» Et il disait « Là, on est dans une autre dimension qui est la musique commerciale. » Et en fait, cette personne ne se pose jamais de question d'autocensure. Voilà.
Eh bien, merci pour cette communication riche, synthétique et hyper bien ficelée. C'est super. Peut-être qu'on a des questions. À mon avis, là, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites. Je sens que... Ah !
La chose qui est à remarquer, c'est qu'en fait, dans toutes vos interventions...
J'ai pas entendu.
Dans toutes vos interventions, pas les vôtres, en général, c'est qu'en fait, je dis pas que j'ai vraiment la réponse, bien que je crois que j'ai cerné quand même... C'est l'origine du mot punk, qui en fait n'existait pas, puisque quand j'habitais à New York, j'ai connu Patti Smith, quand on faisait la scène new-yorkaise avec télévision, etc., le mot punk n'a jamais été prononcé, on ne sait même pas ce que ça voulait dire. Je pense, moi, personnellement, après tant d'années, avoir réussi à pouvoir dire... que Malcolm McLaren, qui est un grand, grand marchand, en fait, a été l'instigateur de ce mot-là. Et qu'en fait, c'est en 1975 que le mot punk est véritablement apparu. Alors que pour moi, le punk, c'est 69, 69 des Stooges ou le MC5. Et pour notre ami dont Michael parlait tout à l'heure, qui s'appelle Bibi Hansen, dont le père était le fondateur du mouvement Fluxus dont il parlait, Pour elle, c'est égérie de la Factory of War, c'est plutôt 64. Donc, vous pouvez remonter au niveau du mouvement. Mmh. Là, c'est autre chose. Je parle du niveau du mot lui-même. C'est plutôt à partir de Sex Pistols. C'est...
Alors, moi, j'aurais tendance à dire, parce que Malcolm McLaren, dans le film Great Rock and Roll Swindle, reprend à son compte, puisqu'il dit « I created punk rock ». J'ai créé le punk rock, ce qui est très prétentieux. Moi, je crois, je peux me tromper, mais je crois que c'est une journaliste qui s'appelle Caroline Kuhn qui a la première fois écrit le mot punk dans un article fin 75 ou début 76. Et je crois que c'est de là que ça... Mais il y a un précédent aux États-Unis. Il y a quand même le fanzine punk et qui abordait tous les groupes que vous me citez. Et je et du...
Juste avant mon fanzine, avant le Beardor, qui était en fait à 3-4-6 mois...
Mais il se pourrait que Caroline Kuhn ait repris le mot punk du fanzine américain punk. Parce que c'était toutes les musiques un peu indépendantes, déviantes, pas comme avant, quoi, ou plus bizarres, ou plus...
Je le redis au micro, oui, le terme il apparaît très rarement, mais il apparaît et dans le contexte musical et rock, même dans des magazines comme Rock'n Folk, tu vois, bon, c'est voilà. Donc après, c'est une question compliquée que tu poses hein, sur le.
Mais moi, depuis que j'ai été entraîné par mon goût musical et mes créations musicales, c'est ce qui m'a toujours posé comme question. C'est bon, j'en ai rien à foutre du terme punk ou d'être traité de punk ou pas de punk. De toute façon, j'en ai jamais eu l'allure de toute façon, donc il n'y avait pas de problème de ce côté-là. Mais quand même, ça m'intéressait pour les groupes que je produisais dans mon label de savoir comment on pouvait les cataloguer, si c'était vraiment... Bon, moi, quand j'ai commencé en 77 avec Guigui, c'était une reprise de ce qui s'est passé avant. Les groupes ensuite, parce que Guigui, il est vite parti à Berlin avec David Bowie, donc je me suis retrouvé tout seul avec un label. Et donc, les groupes que j'ai produits après, dont j'aimerais bien parler d'ailleurs, j'en ai parlé à Luc, les Controllers, les Weasels, etc. et tout... Est-ce que c'était vraiment du punk ? C'était déjà 77-78, c'était Los Angeles. Est-ce que c'était...
Je crois que tout le monde est d'accord aussi aujourd'hui pour considérer qu'il y a une explosion en Angleterre en 76, dont les ferments sont déjà là en 74-75, mais c'était déjà des groupes qui, pour ceux qui avaient un œil vers les États-Unis, avaient entendu parler de choses... underground aussi aux États-Unis qui s'était joué dans la décennie précédente, enfin dans les 5 ans ou les 6 ans précédemment. C'est à peu près ça, quoi.
Et juste une chose que je voudrais ajouter, c'est que n'oubliez pas qu'il n'y avait pas d'Internet, qu'il n'y avait pas de smartphone, qu'il n'y avait pas tout ça, et qu'en plus de ça, chose incroyable, mais c'est qu'en France, le rock'n'roll était pratiquement interdit. Donc c'était pour nous plus qu'une révolution, c'était plus une rage, en fait. C'est d'où de changer, parce qu'on avait marre de Yes, de Supertramp et tout ça. C'est même pas chronologiquement le même truc, mais c'est pour dire que le genre de musique que dont j'ai horreur. Je vais pas dire que je déteste.
Une question, en fait, à deux volets, puisque dernièrement, le groupe punk... Ben, dit punk, puisque là, bon, on pourrait se questionner, est-ce que c'est punk ou non, mais le groupe punk Slave des UK, donc de la Grande-Bretagne, a changé même son nom. Est-ce qu'on appelle ça ici de la cancel culture, par exemple, de réviser même, parce que c'est une chose, les paroles, mais de revoir le nom, par exemple, d'un groupe, en prenant, en fait, pour ne pas... Ouais, ne pas choquer par exemple le public en raison de réaction. Puis après coup, il y a une question qui me turlupine, je dirais. C'est à quel moment la scène punk est devenue un safe space au sens américain du terme? Le dire, ah, voici, il faut absolument que personne soit blessé, un espace inclusif, mais d'une telle façon où on efface littéralement les différences. Alors, voilà.
D'ailleurs, le, D'ailleurs, le mot punk, en fait, n'a pas tenu tellement longtemps, puisque quand les majors se sont rendus compte qu'en fait, c'était potentiellement commercialement exploitable, ils ont vite changé en appelant ça la New Wave. Ça n'avait plus rien à voir avec le punk. Ils disaient le punk, oh là là, surtout pas. Et donc, ça a duré peut-être 2-3 ans, hein, c'est tout.
Bonjour Philippe. J'ai une petite question parce qu'au début de ton sujet là, tu disais que bon, les punks n'étaient pas contents parce que il y avait à cette époque-là une des formes d'évolution où les mecs ils partaient dans l'électronique, ils partaient dans différents styles de musique, de son, tu vois, par rapport à la musique punk. Alors que moi je ne suis pas d'accord avec ça, c'est qu'ils ont toujours tous été intéressés par ça. Même des musiques totalement surréalistes comme The Residence, par exemple, toi, qui était déjà à l'époque considéré, il date de 69, je pense, 70, je sais plus, et donc qui était considéré comme ces musiques un peu surréalistes, qui était considéré comme punk. Donc je suis pas d'accord avec toi.
Mais je crois qu'on est d'accord. Mais moi j'ai dit que plein de groupes avaient des sons différents et que et donc forcément des influences différentes en fait.
Comme la New Wave, même. Comment dirais-je, même qui passe à la RTL ou TF1 ou des trucs comme ça, toi. Même la New Wave de l'époque, ou M6, je ne sais plus, était considérée comme punk à l'époque, tu vois. Même titre que, je ne sais pas, Plastic Bertrand, on y revient.
Tout le monde se fout de la gueule de Plastic Bertrand, mais il a fait un gros punk avant. Il vient pas de nulle part. Hein.
Je pense qu'on peut remercier et applaudir Philippe Roizès pour cette. Belle communication, riche en questions, sur cette construction collective du punk.